Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Comment juger de la réussite d'une mobilisation? Le premier critère sont les chiffres. Hier, le ministère de l'Intérieur a compté 323 000 manifestants dans les différents cortèges. Les syndicats en ont dénombré 500 000. C'est mieux que lors de la précédente journée d'action des fonctionnaires, le 10 octobre dernier. Sauf que le taux de grévistes, lui, est en légère baisse. C'est donc un peu moins bien. Mais ce qui compte avant tout, après une mobilisation, c'est ce qu'en disent les commentateurs. Or, la tendance est plutôt nette ce vendredi. La mobilisation est réussie, suffisamment en tout cas pour ne pas laisser indifférent le gouvernement. Chacun a évidemment en tête les grèves de 95. Et bien sûr, 22 mars oblige, le mouvement de mai 68. L'objectif côté exécutif est donc de tout faire pour que les différents mouvements de revendication ne convergent en un seul. Mais d'ailleurs, les syndicats ont-ils les moyens d'organiser cette convergence? Et ceux qui mènent les luttes du moment, à la SNCF, dans la fonction publique, chez Air France, à l'université, en ont-ils la volonté? Leur front social, le printemps, est-il arrivé? C'est la discussion du soir. Avec trois des membres du club, Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste pour Le Média, pour Le 1, pour le site Là-bas si j'y suis. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
La suite dans les idées sur France Culture, chaque samedi à 12h45. C'est également le site AOC, analyse, opinion, critique. Et puis Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir.
Le tour du monde des idées, c'est du lundi au vendredi sur France Culture, 11h53, dans l'émission Culture Monde. Et c'est également, enfin, vous signez également des chroniques pour le magazine Le Point.
Pourquoi les entonnoirs sur la tête?
Parce qu'on a un ministre de la Santé qui nous rend zinzin, complètement. Nous, on travaille en psychiatrie et on ne sait plus où donner de la tête.
C'est-à-dire qu'il y a eu des réductions d'effectifs là où
Des réductions d'effectifs terribles. Terrible.
Le plan de départ volontaire, j'imagine ça aussi.
Le plan de départ volontaire, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a besoin de nous. Ce qu'on fait, il n'y a personne d'autre qui acceptera de le faire.
Vent debout aussi les manifestants contre le rétablissement du jour de carence, un jour non payé en cas d'arrêt maladie.
Il y a beaucoup de mutuelles qui ne prennent
pas le jour de carence, et c'est une convention collective sur deux qui ne pratique pas le jour de carence. L'histoire, c'est que le jour de carence est dangereux parce que les gens ne prendront plus les arrêts maladie prescrits et généreront des burn-out. Un fonctionnaire de catégorie C payé 1200 euros net en région parisienne, ne peut pas supporter un jour de carence.
Travaille dans quelle préfecture?
Ministère des Armées.
Et pour peser davantage, beaucoup ici se réjouissent de s'allier à une autre mobilisation.
Bonjour. Vous manifestez aujourd'hui en même temps que les cheminots. Est-ce que ça a du sens, ça?
Bien sûr. Eux aussi, c'est le service public.
On est tous le service public. Des cheminots aussi?
Oui, bien sûr, on défend le statut des cheminots. On sait très bien que si on fout en l'air le statut des cheminots, derrière, il y aura le statut des fonctionnaires.
C'est le même combat pour vous.
C'est le même combat.
Voilà, extrait d'un reportage diffusé hier soir dans le JT de France 2, dans le cadre de cette journée de mobilisation à la SNCF et dans la fonction publique. Ce matin, dans Libération, il y a un conseiller ministériel qui est cité, qui dit « ça a l'air plus sérieux que les mobilisations précédentes ». Est-ce que c'est un avis que vous partagez les uns et les autres, Aude Lancelin?
Ah oui, moi je pense que cette mobilisation a de quoi inquiéter le gouvernement. Quasiment un demi-million de Français dans la rue hier. On commence à être sur des échantillons très significatifs. Et puis surtout, ce qui remonte des reportages de terrain dans la presse ce matin, par exemple, celui qui a fait Libération, c'est que le public des manifestations est en train de changer de nature. Dans le cortège des cheminots, paraît-il, il y avait beaucoup plus de jeunes qu'à une certaine époque, il y a quelques années. Il y avait des cadres aussi, des cadres de la SNCF qu'on ne voyait jamais défiler auparavant. Et l'état d'esprit n'était pas le même. Donc il y a une colère qui se répand dans des pans de la population. Beaucoup plus large que le précaré des cégétistes habituels. Je pense que les gens sont en train de comprendre qu'en effet, ce qui est en train d'être détricoté, c'est vraiment tout l'état social construit après la Seconde Guerre mondiale. Je pense que oui, ça inquiète énormément les Français. Sans même parler, bien sûr, de la perception de la politique actuelle du gouvernement Philippe comme extrêmement injuste. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent à des taux extrêmement significatifs, là, 74%, plus de 70%. Un gouvernement qui exonère d'impôts les patrimoines financiers et qui revient sur les APL, augmente la CSG, on en passe, et des meilleurs, forcément, passe pour ce qu'il est, c'est-à-dire un gouvernement qui favorise les ménages à très haut revenu contre les petits.
Alors, ce n'est pas la première contestation depuis le début du quinquennat. Brice Quinturier, il y avait eu celle du 10 octobre dernier, avec une moindre participation, mais peut-être davantage de grévistes, en tout cas selon les statistiques qui sont celles de Bercy, dans les administrations. Est-ce que vous diriez quand même que c'est une contestation qui, aujourd'hui, est en train de changer de nature, à la fois peut-être et par son ampleur, et par le fond des revendications qui sont portées?
Bah écoutez, quant à la mobilisation, elle est très claire. Elle a été très importante à la SNCF puisqu'il y a eu 35,4% de grévistes. C'est beaucoup, ça fait presque un tiers des effectifs de ce service public. Mais dans les administrations de l'État, on constate que c'est moins de 12% de grévistes. Donc c'est extrêmement faible en réalité. Non, ce qu'on vient d'entendre, c'est très clair. C'est la revanche d'une gauche qui a été battue aux élections législatives et présidentielles à plate couture, qui essaie de prendre sa revanche dans la rue. Je rappelle quelques chiffres, là encore, aux présidentielles. L'ensemble des partis de gauche et d'extrême gauche, de Mélenchon à Poutou en passant par Hamon et Artaud, faisaient 27,67% des voix. Aux législatives, le PCF, France Insoumise et le Parti Socialiste, tous ensemble, faisaient 21,29%. Donc on voit bien que la gauche dans ce pays est extrêmement minoritaire, qu'elle est en grande difficulté et elle essaye donc de prendre sa revanche dans la rue. Je suis d'accord avec une des choses qu'a dit Aude Lancelin et ça la surprendra. Oui, nous sommes en train de changer de logique. La logique du système social de l'après-guerre, celle des grandes concentrations ouvrières type Régie-Renault ou SNCF, c'était une logique corporatiste. C'est-à-dire que en fonction des luttes, comme on disait, des luttes sociales, chaque corporation obtenait des avantages particuliers. Et c'est cette logique-là qui n'est plus supportable aujourd'hui. Nous sommes en train de rentrer dans une logique universaliste. Nous ne sommes plus dans une logique bismarckienne à l'allemande, corporatiste, où c'est les petits avantages acquis par chaque corporation qui sont à défendre, mais des avantages collectifs. Et en particulier des avantages pour la liberté de choisir son avenir professionnel, d'en changer, de mobilité. On sait que la majorité des fonctionnaires, et c'est assez intéressant dans les sondages, sont favorables à la réforme de la fonction publique parce qu'ils n'ont pas envie de passer un concours à 20 ans et de faire le même job jusqu'à 60 et à la retraite. Ils ont envie de changer, de bouger, de passer du privé au public. Ils n'ont pas envie d'être enfermés dans un statut. Ils ont envie de se réaliser dans leur vie. C'est en tout cas l'aspiration des jeunes générations. Donc moi, je ne parlerai pas d'un printemps des luttes. Je parlerai d'un printemps des réformes. Et j'aimerais bien y revenir.
Est-ce que ça veut dire, mais brièvement, avant de passer la parole à Sylvain Bourmeau, Brice Couturier, que vous voyez dans la contestation, dans les mouvements d'hier, simplement des mouvements corporatistes, justement?
Bien entendu, on a bien vu que c'était la SNCF qui était là. Les fonctionnaires y étaient très peu. Quant au privé, il était totalement absent. Lui, il était juste gêné par les grèves des trains pour se rendre à son boulot. Mais il n'y avait pas de grève dans le privé, par exemple, évidemment.
Sylvain Bourmeau.
L'enjeu va être de savoir si on a affaire à des mobilisations corporatistes traditionnelles, de gens qui descendent dans la rue pour défendre leur statut, leurs avantages, leurs régimes spéciaux, ce dont Brice Couturier vient de parler, mais ou si on a affaire à des manifestations, des grèves, des mobilisations politiques qui se pensent davantage comme la défense ou les défenses d'un certain nombre de valeurs, celles précisément dont parlait Aude Lancelin et qui sont issues du Conseil national de la résistance et plus largement même de l'État social qui a précédé, puisque déjà mis en œuvre par le Front populaire notamment. La réponse à cette question pourrait bien passer par, au fond, la manière d'entrer ou pas en politique, en mobilisation pour les citoyens. Parce que, comme l'a rappelé Brice, c'est vrai qu'il y a un écart énorme entre la masse des électeurs qui se sont exprimés, qui se comptent en millions, et les dizaines de milliers, voire petites centaines de milliers de gens qui descendent dans la rue. On a deux échelles politiques extraordinairement différentes. Pour gagner des élections, il faut mobiliser bien davantage que pour remporter une victoire dans la rue, en quelque sorte. La question est donc de savoir si des gens vont descendre demain ou dans les semaines qui viennent dans la rue, non pas pour défendre leur situation particulière, leur statut de cheminot, ou de tel ou tel membre de la fonction publique, mais bien plutôt de savoir s'ils vont descendre dans la rue comme citoyens pour défendre les services publics. Et je ne serais pas
surpris... On n'est pas en mesure aujourd'hui de répondre à cette question.
Non, mais je ne serais pas surpris qu'un nombre plus important de gens qui ne sont pas cheminots se sentent concernés par le sort qui est fait ou qui risque d'être fait à la SNCF en tant qu'usagers du service public qui en ont assez d'être considérés comme des clients d'une entreprise qui prend des habitudes qui ressemblent de plus en plus aux compagnies aériennes et qu'ils préfèrent se vivre et défendre le principe d'être usagers de la SNCF plutôt que de devoir subir ces transformations qui fait qu'on appelle maintenant oui ceci, oui go, je ne sais quoi, et qu'on a des modes de remplissage, des tarifs incompréhensibles. Et de la même, je peux faire le même raisonnement avec les usagers de l'hôpital qui entendent ce que disent quelqu'un comme le professeur Grimaldi qui montre l'absurdité des logiques commerciales à l'œuvre dans la gestion des établissements hospitaliers. Et je pense que des usagers des hôpitaux, il y en a quand même autrement plus que des fonctionnaires qui travaillent à l'intérieur de ces hôpitaux. Et je pense que le niveau d'inquiétude à l'intérieur de la population française vis-à-vis des risques qui pèsent sur la qualité de ces services publics, qu'il s'agisse du train, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, qu'il s'agisse des hôpitaux, pour ne citer que ces trois exemples, bien tout ça monte et ça peut donner quelque chose d'un peu important qui tendrait non pas au corporatisme, mais plutôt au corporatisme de l'universel, pour reprendre la belle expression de Pierre Bourdieu lors du mouvement social de 1995.
Puisque vous citez Bourdieu, tiens, je vais le citer également dans le texte, puisque le Monde daté de ce jour réédite son discours de la gare de Lyon hein, pendant les grandes grèves, c'était le 12 décembre 1984. Je ne vais pas tout vous citer évidemment parce que c'était assez long, mais il disait notamment ceci: je suis ici pour dire notre soutien à tous ceux qui luttent contre la destruction d'une civilisation associée à l'existence du service public, celle de l'égalité républicaine des droits, droit à l'éducation, à la santé, à la culture, à la recherche, à l'art et par-dessus tout au travail. Est-ce que cette façon...
Républicaine, vous avez noté.
Oui, absolument. Est-ce que, en tout cas, cette façon de présenter les enjeux de la mobilisation et de ce conflit tel qu'il s'était fait il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, Aude Lancelin, ça reste encore une façon qui vous paraît pertinente pour comprendre et présenter les enjeux du mouvement actuel?
Je la trouve plus pertinente que jamais. Vous mentionnez la première phrase, notamment de son fameux discours. Il parle de destruction d'une civilisation. Celle-ci est réellement en cours désormais. On n'en était qu'au prolégomène, au début, en 1995. Parce que il ne faut pas isoler la question du statut des cheminots et de la réforme de la SNCF des autres pans de la société qui à mes yeux sont en train d'être agressés. Je parle bien sûr de la réforme du code du travail, je parle de la réforme de la formation professionnelle, je parle de la question de la fiscalité que j'évoquais tout à l'heure, je parle de la question de l'hôpital, je parle de la question des retraites qui s'annoncent pour bientôt. On peut même se demander si ça n'est pas une sorte d'assaut final en France sur le statut même du fonctionnaire et de la chose publique qui peut faire beaucoup de dégâts, y compris et se retourner contre le gouvernement actuellement en place, parce que les éditorialistes ont beaucoup salué comme quelque chose de machiavélien et de stratégiquement génial le blitzkrieg d'Emmanuel Macron, l'ouverture simultanée de tous les fronts. Mais ça, c'est justement une chose explosive qui peut réellement créer un front commun en face et qui peut faire sauter un gouvernement. Parce que je le rappelle, petite page d'histoire pour ceux qui nous écoutent, 1995, c'est 6 manifestations monstres, c'est 2 millions de personnes en tout de Français qui seront descendus dans la rue, et c'est un gouvernement qui a dû battre en retraite aussi bien sur le statut des cheminots que sur la question de la fonction publique. Seule la question de la sécurité sociale sera finalement partiellement adopté par ordonnance, mais ce que je veux dire, c'est que la rue peut beaucoup, un mouvement social peut beaucoup, les gens ont fini par l'oublier, il faut leur rappeler.
Est-ce qu'on peut dire, en tout cas, Brice Couturier, que l'avenir de ce mouvement et sa réussite ou son échec, en tout cas, passe par la capacité à en faire quelque chose de global, c'est-à-dire de sortir de ce que vous décriviez tout à l'heure, ces revendications dont vous nous disiez qu'elles sont essentiellement catégorielle aujourd'hui. Est-ce que la fameuse convergence des luttes, par exemple, dont on parle beaucoup, notamment cette période de commémoration des événements de mai 68, c'est quelque chose
qui vous paraît... C'est la CGT qui parle de convergence des luttes. Je vous signale que la CFDT est contre. Hein. Laurent Berger, ça c'est Laurent Berger...
Il ne manifestait pas hier, hein, la CFDT d'ailleurs.
Laurent Berger, la CFDT, comme premier syndicat de France, dit « La convergence des luttes, ce n'est pas la tasse de thé de la CFDT pour une raison simple, c'est que la convergence des luttes ne permet jamais d'avoir des résultats concrets. » Donc, vous voyez, on ne peut pas garder uniquement le point de vue de la CGT. Il faut avoir un point de vue un peu plus large. Et je voudrais répondre à Aude Lancelin parce qu'elle pose des questions intéressantes. Effectivement, sur le printemps des réformes, je pense qu'effectivement, les réformes ne font que commencer. On voit une légère amélioration sur le front de l'emploi grâce, il faut le dire, aux lois El Khomri, pas encore aux lois de réforme du Code du travail entreprise depuis que le gouvernement Macron est en place. C'est beaucoup trop récent. Mais effectivement, le rythme des réformes va s'accélérer. On ne peut pas garder dans ce pays 3,4 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, comme c'est encore le cas aujourd'hui. On ne peut pas conserver un déficit du budget de l'État qui atteint encore 67 milliards de l'année dernière et on ose nous parler de cagnotte fiscale. Donc il faut réformer le Code du travail pour qu'il cesse de dissuader les embauches, je réponds à Aude Lancelin. Il faut basculer les cotisations sociales qui pénalisent le travail vers la CSG parce que la CSG frappe tous les revenus, y compris ceux du capital. Il faut élargir le champ de l'assurance chômage, notamment aux démissionnaires qui veulent commencer quelque chose de nouveau, créer un job, créer une entreprise, et puis pour les indépendants aussi. Et surtout, ça passe par l'apprentissage et la formation professionnelle parce qu'il faut donner aux gens des compétences pour qu'ils puissent travailler, progresser dans leur carrière, choisir les carrières qui leur conviennent, d'où le titre de la loi « Liberté et protection pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».
Est-ce que ça veut dire, Brice Couturier, que le gouvernement ne doit tenir aucun compte de la mobilisation d'hier et des revendications qui ont été exprimées ?
Le gouvernement doit tenir compte du Parlement qui a été élu l'année dernière parce que c'est le Parlement qui fait la loi. C'est pas la rue, c'est pas la CGT toute seule. La CGT, c'est, vous savez, déjà, les partis de gouvernement ont été bousculés par le nouveau monde, par ce qui est en train de se passer, la recomposition complète du paysage politique, mais il va y avoir aussi une recomposition du paysage syndical, croyez-moi. C'est pour ça que la CGT est assez mal dans ses bottes, parce qu'il y a des élections en décembre à la SNCF, et chacun sait que la CFDT, il les abordera dans une situation difficile. Donc il n'y a pas de convergence des luttes, parce que la majorité des syndicats ne la veulent pas, la CFDT en particulier, et puis effectivement, on sort d'une logique, encore une fois, corporatiste pour rentrer dans une logique universaliste, une logique scandinave, où tout le monde aurait les mêmes droits et où il n'y aurait pas des gens qui pourraient prendre leur retraite, comme c'est le cas à la SNCF, à 53 ans et 5 mois pour les agents de conduite et 57 ans et demi pour les autres agents de la SNCF, pendant que pendant ce temps-là, des gens de 60 ans et plus continuent à conduire des camions toute la semaine, eux, et à verser des cotisations pour payer les assurances des gens de la SNCF, puisque leur caisse d'assurance et de retraite est en lourd déficit tous les ans.
Aude Lancelin.
Non, je précise juste tout de même que Laurent Berger de la CFDT lui-même a évoqué l'idée que son syndicat puisse rejoindre le mouvement et notamment mobiliser la fonction publique lors des prochaines manifestations. Hein. Donc c'est tout de même un point important. Par ailleurs, contrairement à ce que disait Brice Couturier à l'instant, ce sont les directions syndicales qui sont très timorées hein, dans cette affaire. On sait à quel point Force ouvrière et Jean-Claude Maillet ont été contestés. La CFDT, on n'en parle même pas parce qu'ils sont rangés des voitures depuis des dizaines d'années. Et même la CGT, d'une certaine façon, a été assez timide, notamment l'année dernière. Donc, contrairement aux bases de ces syndicats qui, elles, sont très déterminées.
S'il y a coagulation des mouvements sociaux, puisque c'est un peu le terme à la mode en ce moment, Sylvain Bourmeau, est-ce que ça peut se faire sans que ça passe par l'unité syndicale, des syndicats qui, alors certes, s'y discutent ensemble, ne sont pas non plus totalement unis. Par le passé, on a pu quand même constater que ça ne passait pas toujours justement par les centrales. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque peut-être de personnalité pour porter un mouvement ? On évoquait Bourdieu tout à l'heure, en 95, c'était une figure comme ça assez emblématique de ce mouvement. Aujourd'hui, ce serait qui s'il devait y avoir quelqu'un qui soit capable d'incarner cette convergence des luttes.
On voit mieux Bourdieu depuis aujourd'hui. Je ne pense pas que la physionomie du mouvement de 95 s'en serait trouvée changée si Bourdieu n'avait pas fait son discours. On parle là de mobilisation qui concerne des centaines de milliers de personnes et pour beaucoup n'avaient pas écouté ce discours. Je ne crois pas que ce n'était pas le leader d'un mouvement. Il faut remettre les choses à leur place. Je crois que
En revanche, si on reste dans un jeu syndical classique, avec en plus un décalage entre la direction des syndicats et leur base, il y aura effectivement, et c'est ce que prédisait ou prévoit en quelque sorte l'historien du mouvement social Stéphane Sirot dans un article qu'on a publié dans AOC, il n'y aura pas...
Article qui s'appelle « L'improbable convergence des luttes ». Voilà, il fait part de ses doutes justement.
Le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas de convergence parce que les intérêts syndicaux sont concurrents, qu'il y a des élections effectivement ici ou là qui approchent sur le terrain syndical. Mais... si on reste à ce niveau-là, il n'y aura pas non plus de grand mouvement social. Il n'y aura un grand mouvement social que si il parvient à réunir des gens, encore une fois je le redis, qui descendent dans la rue, non pas pour défendre leur statut personnel à l'intérieur de la fonction publique, mais des gens qui, comme citoyens, descendent dans la rue pour défendre l'idée de service public. Ce qui ne veut pas dire que ces gens soient opposés au constat qui consiste à dire, et ça me semble une évidence, que ce service public, il faut profondément le réformer, qu'il faut en finir avec un certain type de corporatisme à l'intérieur du service public. Mais ce qui est en jeu, si on a un face-à-face entre des gens d'un côté qui sont complètement campés sur la défense de leurs intérêts corporatistes et de l'autre... des gouvernements néolibéraux qui veulent en finir avec l'idée même de service public, on est mal barré. Je pense qu'il y a entre les deux l'idée d'une défense de cette idée de service public et qui consiste aussi à chercher les modalités d'une réforme du service public qui pourrait être pertinente. Et je crois que tout l'enjeu aujourd'hui est là. Et ce qui me fait penser qu'il y a peut-être une opportunité historique pour que des gens descendent dans la rue avec ce type d'attitude comme citoyen, c'est précisément parce qu'il y a un énorme vide politique à gauche, que la disparition du Parti socialiste en particulier crée un appel d'air et vient peut-être enfin rebattre les cartes, et cette espèce de division du travail politique qui existe en France entre syndicats et partis politiques depuis la charte d'Amiens, depuis 1906, va peut-être, j'en sais rien, voler en éclats. Et des citoyens peuvent se retrouver dans la rue à faire de la politique à propos du social, alors que le social était jusque-là géré dans des intérêts syndicaux par des centrales syndicales. Au fond, c'est ça qui, peut-être, va se passer dans les semaines qui viennent. En tous les cas, il y a une forme d'opportunité historique. Je ne suis pas sûr du tout que cela se passe. Hein.
Vous parlez d'un vide à gauche. Il y a quand même Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même la France insoumise qui, hier, est extrêmement présent dans la manifestation. Alors, effectivement, le Parti socialiste, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'on a vu le futur prochain numéro 1, Olivier Faure, qui a été... à qui on a gentiment demandé, enfin, quand je dis gentiment, ce n'est pas du tout gentil, hein, de sortir du cortège à deux reprises. Voilà, il a essayé d'y aller, puis il s'en est fait expulser. Mais ce vide-là, à gauche, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Aude Lancelin ? Je poserai aussi la question à Brice Couturier.
Non, mais d'une certaine façon, la place de la France insoumise est systématiquement occultée dans les médias. Donc, je ne suis pas tellement surprise par le discours de mon voisin. Ce qui s'est passé hier à la manifestation, moi je n'aime pas tellement les climats de lynchage, donc effectivement Olivier Faure a été hué, insulté, puis exfiltré dans des conditions très rudes. Voilà, mais on ne peut pas dire que son parti l'ait volé, mais enfin, voilà. Ça montre quand même le thermomètre et à quel point l'idée même de reconstruire sur ces bases-là le parti socialiste... risque d'être impossible, je dirais même. Il y a moins d'un an, quand même, Olivier Faure appelait, après l'élection à la présidence d'Emmanuel Macron, à soutenir son gouvernement et souhaiter faire partie de sa majorité. Donc, il y a ce qui est bien logique, puisque de toute façon, Emmanuel Macron est la créature de ce PS-là. Donc, même si la créature leur a échappé, bien sûr. Voilà. Donc, la France insoumise, pour revenir à votre question, évidemment, dans cette affaire, a un rôle politique fondamental à jouer. C'est la première force d'opposition à gauche du pays, n'en déplaise à tous les médias qui la harcèlent d'une certaine façon et qui harcèlent son leader Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis quand même extrêmement... permettez-moi juste une parenthèse... accablée, même si je ne suis pas surprise par le comportement des médias depuis 24 heures. Quand je vois la une du Parisien ce matin, ça ne prend pas avec une image des foules d'hier, ça ne prend pas. C'est quand même tout de même invraisemblable. On est là dans la manipulation vraiment avérée et la construction d'une réalité autre. Quand on voit que les médias ont mis en place leur propre comptage hier, pour la première fois, différent du comptage gouvernemental et différent du comptage syndical, et que les médias arrivent à un comptage inférieur à celui de la police, je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'on arrive à un résultat presque comique de cette nature, et qui d'une certaine façon valide les propos de Guy Debord dans un commentaire sur la Société du spectacle quand il évoque les journalistes policiers. Ce mot valise, les journalistes policiers. Là, on est vraiment dans l'illustration de ça. Je trouve ça inquiétant. Et cela montre en tout cas la dégradation profonde de ce métier, de ce milieu depuis quelques années.
Ce qui va faire réagir et Sylvain Bourmont et Brice Couturier.
Oui, parce que autant je suis d'accord peut-être avec Aude Lancelin sur le souhait de voir un mouvement social de défense des services publics fort advenir dans les semaines qui viennent, autant je ne peux pas partager la critique des médias qui est la sienne. Je pense que le travail qui a été produit par des médias indépendants ces jours-ci sur à propos du comptage des manifestants est une très bonne chose, que les résultats ne me surprennent pas parce que en fait, ils viennent confirmer ce que des chercheurs en sciences politiques de longue date avaient produit à propos des mouvements sociaux. Simplement, on est dans des tels délires inflationnistes sur les chiffres depuis des dizaines d'années et dans des surenchères absurdes qui font que même la police avait tellement peur d'être ridicule qu'elle a probablement gonflé un petit peu les effectifs. Et moi, j'aurais personnellement beaucoup plus tendance à croire les résultats produits par ces médias indépendants qui me semblent refléter la réalité. Et ces chiffres ne sont pas ridicules. Ces chiffres sont des chiffres importants. C'est des chiffres importants de mobilisation. Mais il faut arrêter de raconter n'importe quoi.
Ces chiffres sont absolument ridicules.
Non, souvent. Ces chiffres sont...
Et par ailleurs, la tâche de comptage a été...
Je vous passe tout de suite
la parole.
Je l'attends depuis un certain temps, figurez-vous.
Juste une petite insiste. Cette tâche a été confiée par les médias à un institut privé. Les chiffres sont absolument faibles. Hein. On est à 47 800 contre un chiffrage du ministère de l'Intérieur à 49 000.
Grosso modo, c'est la même chose. Permettez-moi de
trouver ça vraiment risible.
Alors, Brice Couturier, je ne sais pas si vous voulez revenir sur cette parenthèse du comptage ou sur l'état de la gauche.
Oui, plutôt sur l'état de la gauche. Je voudrais quand même rappeler à Aude Lancelin que la France insoumise au premier tour législatif, ça ne fait jamais que 11,03% des voix. Donc, que les médias accordent que 10% de leur temps de parole à ces 11%-là, mon Dieu, ça paraît relativement logique. Je voudrais revenir aussi sur d'autres sondages. Ceux qui nous disent que la grande majorité des Français sont favorables à la réforme de la SNCF. 7 Français sur 10, 69% exactement selon le tout dernier sondage, celui de Harris Interactive, sont pour la fin du statut des cheminots dont il n'est même pas question, puisque ce que le gouvernement a accepté en reculant face aux revendications de certains syndicats, c'est que le statut des cheminots ne sera supprimé que pour ceux qui vont rentrer ensuite. Mais pour ceux qui sont déjà dans le métier, ils vont garder tous leurs avantages, y compris les droits à la retraite anticipés, etc. Ce qui n'est guère... Alors j'adore quand les gens de gauche viennent nous faire des leçons sur l'égalité, mais qui défendent mordicus des avantages acquis à l'époque où les locomotives marchaient à la vapeur et où effectivement ce type de retraite anticipée était parfaitement légitime. Ils ne le sont plus aujourd'hui. Je ne vois pas du tout, encore une fois, pourquoi les conducteurs de poids lourds bénéficieraient de conditions sociales beaucoup plus dures que ceux de la SNCF, soit est-ce que les uns ont un statut et que les autres n'en ont pas, ou pas le même.
Donc il faudrait défendre le même statut pour les conducteurs de poids lourds que pour les cheminots.
Je voudrais simplement l'égalité, c'est la même chose pour tout le monde. C'est pas de privilège. Je veux lire un petit extrait d'un texte que Denis Maillard a publié sur le site Telos, qui me paraît extrêmement révélateur, parce que ça répond aussi à la question que vous posiez tout à l'heure sur les grèves de 95 et celles d'aujourd'hui. La grève reconductible à la SNCF ne pourra pas coaguler et aboutir à un blocage du pays façon 1995, car nous avons en effet changé d'époque. Les cheminots ne sont plus considérés comme les porte-parole du tiers-État, mais comme les nobles aux privilèges insupportables. Toutefois, la contestation de cette noblesse du rail ne porte pas sur le statut ou les conditions de retraite, comme on pouvait s'y attendre, elles s'intéressent aux billets gratuits dont profitent leurs familles. Simplement, je voudrais qu'on passe d'un système bismarckien à un système scandinave social-démocrate où on prend tous sa retraite au même moment, d'où la retraite par points que le gouvernement Macron essaye de mettre en place, ça prendra du temps. Simplement, les mêmes droits pour tous, ça ne veut pas dire moins de droits pour tous. tous. Ça veut dire les mêmes droits pour tous. Ça veut dire l'égalité réelle et pas simplement des privilèges acquis il y a 40 ou 50 ans par les grands ancêtres qui persistent aujourd'hui, on ne sait pourquoi.
Ben, je viens d'apprendre que je faisais partie de la noblesse parce que je bénéficie moi de ces billets gratuits puisque je fais partie d'une famille de cheminots. Voilà, ça c'était la petite parenthèse perso. Je reviens à l'article que vous mentionniez tout à l'heure, Sylvain Bourmeau, de l'historien Stéphane Sirot sur AOC, sur votre site, et qui disait ceci pour aussi étayer un petit peu les doutes qu'il avait par rapport à cette idée d'une convergence des luttes. Il dit aussi, dans la société, la critique des orientations libérales n'est pas inexistante, mais elle paraît manquer à la fois d'épaisseur idéologique et de relais médiatique. Est-ce que vous partagez cette analyse-là ?
Alors, c'est deux dimensions différentes. Épaisseur idéologique, je ne suis pas sûr. Il y a des critiques du néolibéralisme qui sont nombreuses, qui sont le fruit de recherches diverses dans différentes disciplines. Ce qui manque, en revanche, c'est la traduction politique de ces critiques, et notamment dans une gauche, disons, un peu plus centrale que la France insoumise. Qu'est-ce qui s'est passé, au fond, à l'intérieur du Parti socialiste après 1995
quand vous dites centrale, vous voulez dire quoi ? Plus centrale,
plus centriste ? Un peu moins à l'extrême gauche, si vous voulez, si on se représente les choses sur un axe gauche-droite. Donc, cette position qui, autrefois, était aussi la plus forte, qui réunissait le plus d'électeurs, même si elle s'est littéralement effondrée à la faveur de la dernière séquence électorale, mais rien ne dit qu'elle ne regagnera pas du poil de la bête à un moment. En tous les cas, cette position-là, hein, celle que François Mitterrand a fait triompher sur le Parti communiste pendant toutes les années 70, au fond, n'a pas véritablement cherché à développer une idéologie politique de défense de l'idée de service public après 1995. Il y a un grand impensé. Il n'y a pas non plus l'idée qu'il faudrait devenir néolibéraux, je ne crois pas, ou alors ça concerne une toute petite partie éventuellement des membres du Parti socialiste qui ont rejoint depuis Emmanuel Macron. Mais pour beaucoup d'autres, il y a juste une absence de pensée. Donc là, oui, je suis d'accord là-dessus. S'agissant des médias, les médias, qu'en dire ? Enfin, je veux dire, il y a effectivement un consensus un peu mou dans les médias mainstream, probablement, sur ces questions. Mais il existe aussi des médias qui partagent d'autres points de vue et qui sont quand même assez importants, me semble-t-il, dans ce pays. Ben, vous travaillez dans l'un d'eux, mais
ah ben je vous remercie, non, vous me trouvez important.
Il en est d'autres.
Je le prends comme un compliment.
Je peux en citer un qui ne partage pas votre conception du rôle des médias dans la démocratie et du journalisme, mais Mediapart par exemple, qui également porte une critique du néolibéralisme très très clairement.
Sur la question, en tout cas, du manque peut-être d'épaisseur idéologique de la contestation, alors si ce n'est du libéralisme, mais en tout cas, de cette défense ou de cette réflexion de ce que doit être peut-être le service public, de ce que doit être l'État-providence. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs un diagnostic qu'on peut faire pour l'ensemble des familles politiques ? C'est-à-dire, est-ce que ce qui ne manque pas aujourd'hui, c'est une vraie réflexion sur ce que devrait être le modèle social français, ce qu'il est aujourd'hui et comment il devrait évoluer, si tant est qu'il faille le faire évoluer, Aude Lancelin ?
Bah, oui, bien sûr. On sait bien en réalité tous que c'est la notion même de service public qui est en train d'être attaquée. On sait bien que s'il y avait une privatisation de la SNCF comme il faut désormais s'y attendre, si les mouvements sociaux échouent, le souci ne sera plus d'assurer à tous le meilleur service, mais de réaliser des marges avec toutes les conséquences adjacentes. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'ont dit mes voisins à l'instant. Tout d'abord, Sylvain, je vois pas en quoi Mediapart et le média partagent deux conceptions différentes du journalisme. Moi, il me semble être très proche par mes positions de celles défendues par un journaliste comme Laurent Mauduit dans Main Basse sur l'information, qui constitue une critique très virulente.
Non, je parlais là de la critique très virulente et dans laquelle je me retrouve entièrement, par Edoui Plenel, des propos de Jean-Luc Mélenchon à l'égard du journalisme.
Oui, mais alors là, c'est autre chose. C'est les rapports de Mediapart avec la France Insoumise. C'est pas nos rapports, les rapports de la rédaction du Média avec Mediapart. Parce que pour ce qui est de la dangerosité du fait que le CAC 40 ait fait main basse sur les médias, je crois que nous sommes d'accord. Par ailleurs, oui, vous dites, vous classez, et c'est un classement à mes yeux entièrement idéologique que la France insoumise est un parti d'extrême gauche ou de gauche radicale. La France insoumise n'est que l'héritière en définitive via Jean-Luc Mélenchon du socialisme des années 80. Le programme de François Mitterrand en 81 était beaucoup plus, bien plus radical que celui de la France insoumise aujourd'hui. Il y avait des nationalisations inscrites au programme. Il y avait la nationalisation notamment de tout le système de crédit des banques françaises. Donc, et personne ne parle à ce sujet aujourd'hui de gauche extrême, de gauche radicale. Donc il y a un déplacement des normes pour faire passer des revendications légitimes, notamment concernant la défense du service public et la défense des gens, qui sont entièrement idéologiques.
Brice Couturier.
Oui, encore une fois, on change de logique parce qu'on change d'époque. Les années 80 sont très très loin de nous, les problèmes qu'elles posaient sont très différents et on est rentré dans la mondialisation et qui était loin d'être aussi engagée à l'époque des années 80. Je pense que la nouvelle logique, elle est caractérisée par l'individualisation des situations, la volonté d'autonomie des personnes et l'émancipation individuelle qui doit être assumée de manière collective. D'où l'idée de flexisécurité, si vous voulez. L'idée de flexisécurité, c'est qu'on va donner aux gens des possibilités de formation toute leur vie, on va leur donner des possibilités de changer de travail, de changer de filière, de changer de métier, de passer de la fonction publique au privé quand ils en ont envie, parce qu'on est dans une société de mobilité et que ça correspond au désir des gens.
Simplement, mais c'est la question que j'allais vous poser, ça répond à une demande, cette individualisation,
mais bien
ou
sûr.
C'est une forme de contrainte?
Non, ce n'est pas une forme de contrainte. La preuve, c'est que quand on le propose aux fonctionnaires eux-mêmes, ils la votent, puisque les sondages montrent que la réforme de la fonction publique, y compris celle qu'a présentée Macron, qui a été présentée par les médias comme inacceptable par les fonctionnaires, en réalité, les fonctionnaires dans les sondages montrent qu'ils y sont favorables. Donc on est sorti de cette logique-là. On est surtout sorti d'une logique générationnelle, si vous voulez. La génération, encore une fois, de la régie Renault, où vous aviez des dizaines de milliers d'ouvriers massés sur un seul site, travaillant à la chaîne, faisant la même chose du matin jusqu'au soir et ayant des progressions de carrière extraordinairement réduites parce qu'il y avait très peu de formation, il y avait très peu de mobilité. Aujourd'hui, vous avez une aspiration au changement, à gérer soi-même sa vie, mais à la gérer dans une sécurité. Et les réformes que le gouvernement essaye de mettre en œuvre vont précisément dans ce sens. Tout ce que j'ai entendu sur la destruction des services publics, c'est évidemment des slogans, c'est de l'idéologie assez bêtasse. En réalité, bien entendu, personne n'a envie de liquider les services public, simplement, on voudrait qu'ils marchent. Parce que les Français s'aperçoivent d'une chose, c'est que leur école, l'école dans laquelle ils mettent leurs enfants est de plus en plus médiocre. Ces résultats comparés par les systèmes PISA internationaux montrent une dégradation sans cesse de la qualité de l'école. L'hôpital est dans un état épouvantable. La santé régresse. Et moi qui prends le train tous les matins et tous les soirs pour rentrer chez moi, je peux vous dire que je ne suis pas du tout satisfait de la SNCF. Alors peut-être qu'il faut défendre les statuts des cheminots, mais il faudrait peut-être aussi défendre les intérêts de ceux qui prennent les trains, qui utilisent les écoles et qui vont dans les hôpitaux.
Ben on va parler hors
c'est ceux-là qui risquent de descendre dans la rue.
Ça serait une bonne chose.
Avec vous, Brice Couturier. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Donc Brice Couturier, Sylvain Bourmeau et Aude Lancelin. Discussion que vous pouvez retrouver où ça ? Sur franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également télécharger l'émission, vous pouvez nous écrire, vous pouvez également nous suivre sur le fil Twitter. Merci à l'équipe du Grand, Antoine Dulster, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Le Duo et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Philippe Mercher, Stéphane Desmond et Stéphane Touvenin.